France Culture.
Le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Ce serait soit un réchauffement d'origine naturelle, ce serait aussi de l'ordre de quelques dixièmes de degré. Les conséquences seraient à peine perceptibles.
Même un réchauffement, si cela est le cas, de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique.
Le risque concerne aussi bien l'émissaire Nobel.
Le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2.
Je ne pense pas que la cause de ce changement dû au dégagement de CO2 soit prouvée. Par exemple, le fait que les courbes d'augmentation de température et de CO2 soient parallèles, ça s'avère faux.
Climato-scepticisme, trumpisme, déni de la science. Alors que le réchauffement climatique et les atteintes à l'environnement poursuivent leur route, que des politiques publiques tentent dans une partie des pays du monde de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et de préserver la biodiversité, au risque de contrarier certaines catégories de leurs citoyens, des vents contraires continuent de prêcher le faux, d'insuffler le doute et de souffler la discorde. Dans un contexte géopolitique et économique difficile, quels peuvent être leurs effets sur les opinions publiques et sur les choix politiques? Doit-on craindre un risque de contagion? Comment peut-on faire front? Autant de questions discutées avec nos trois invités ce soir en direct. Jean-François Soussana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche, co-auteur de rapports du GIEC et président du Haut Conseil pour le Climat. Avec nous également en studio, Jean-Yves Dormagin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, président du laboratoire d'études d'opinion Cluster 17, et avec nous en distanciel Raquel Bertoldo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en psychologie sociale, spécialisée dans le domaine de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique, et vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Bienvenue à tous les trois, bienvenue aussi à nos auditeurs, les fidèles et les nouveaux. Ravie de vous accueillir dans le magazine de l'environnement de France Culture. En partenariat avec le journal Le Monde, émission toujours préparée par Corinne Amar, Jeanne Agrapard et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang, celle des équipes de documentation de Radio France que je salue. Émission réalisée toujours aussi par Alexandra Malka, avec à la technique Alexandre Dang.
On va sauver l'économie. Les prix vont baisser. Nous allons forer, bébé. Nous allons forer. Nous allons faire baisser les prix. Nous allons sauver l'économie de l'anéantissement total et nous allons restaurer la prospérité de notre pays.
C'était le 6 novembre 2024, Donald Trump qui promettait tout juste élu de forer et de produire plus d'énergie fossile. Le réchauffement climatique est pour lui visiblement un canular, voire un poisson d'avril. Un discours qui a des adeptes, hein, probablement. On en trouve un peu partout et on va se poser la question bien sûr de ses adeptes aussi en Europe. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué peut-être les uns les autres en entendant ce discours et un discours accompagné aussi d'une mise à mal des plans d'action initiés par les prédécesseurs et puis la fin de budget alloué à certains programmes de recherche. Jean-Yves Dormagin.
Alors, moi, ça ne m'a pas choqué parce que je...
On s'y attendait.
Je le sais, enfin, je l'étudie, donc je connais ce discours qui est assez ancien, hein, le drill, baby drill. Ça remonte au Tea Party, ça remonte à Sarah Palin, c'est déjà assez ancien, c'est un marqueur des néoconservateurs américains depuis longtemps. Donc c'est Trump ne fait, comme souvent d'ailleurs, que reprendre des éléments idéologiques ou des éléments de langage de la droite dure néoconservatrice américaine sur ces sujets-là. Et l'écologie, en effet, enfin l'anti-écologie pour être précis, l'anti-écologie est l'un de leurs principaux marqueurs avec le rejet des migrants. Et comme troisième pilier, ce qu'ils appellent le wokisme, donc l'anti-wokisme. En gros, le rejet du progressisme sociétal. Donc, c'est vraiment les trois piliers du trumpisme. Et effectivement, d'une certaine manière, le trumpisme est précurseur parce que pendant longtemps, au fond, en Europe, il n'y avait pas vraiment d'offres politiques qui reprenaient aussi frontalement et aussi explicitement le rejet de l'écologie. Les polémiques sur ces questions particulières d'énergie fossile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on y reviendra, j'imagine. Donc, d'une certaine manière, le trumpisme, de ce point de vue-là, a été précurseur. Un des spots de campagne de Donald Trump, c'était un puits de forage en plan fixe, filmé donc en plan fixe, en train de fonctionner, de forer, et il n'y avait aucun commentaire. C'était juste c'est donc un marqueur programmatique absolument central du trumpisme, revendiqué justement de forer toujours plus et de produire toujours plus d'énergie fossile.
Si ce n'est que, cette fois-ci, on a compris qu'il allait aussi s'acharner contre des scientifiques, hein, ou certains. Au département de la Santé, il a aussi nommé un ministre qui ne croit pas au vaccin. Bon, là, c'était un autre signal. Nouvel administrateur de l'Agence pour la protection de l'environnement a voulu supprimer le texte fondateur, et d'emblée, hein, le texte fondateur de 2009, qui considère que les gaz à effet de serre sont un danger, etc., etc. Menace sur le fonctionnement, Jean-François Soussana, des agences qui s'occupe de la météo, par exemple, de l'environnement, de la santé. Vous avez perçu peut-être quelque chose d'un peu plus jusqu'au boutiste ?
Oui, alors ce qui nous a surpris, c'est la rapidité à laquelle ces démantèlements très ordonnés ont eu lieu. Vous le rappelez, il s'agit déjà au premier jour de son mandat du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. C'est le deuxième retrait opéré par le président Trump, puisqu'il l'avait fait dans son premier mandat. Et puis, cette chaîne de décisions très brutale affectant les agences américaines dans beaucoup de domaines. Alors, on cite la météo, on cite les océans, mais en fait, je peux vous dire que c'est pareil dans toute une série de domaines. Et ces actions qui visent à nier l'évidence. Alors, comment nie-t-on l'évidence ? Par l'obscurantisme, en effaçant les traces, en supprimant les jeux de données, en licenciant les scientifiques et en s'attaquant au GIEC, puisque la coprésidente du groupe 3 a été licenciée, par exemple, et qu'il y a évidemment un retrait de toute subvention des États-Unis. Donc c'est vraiment cette période assez sombre que nous sommes en train de traverser et qui interpelle, hein, sur les motivations de ce déni à cette échelle.
En sachant que ces agences dont on parle, hein, par exemple la NOAA, hein, qui s'occupe donc de la météo, si on doit le dire comme ça de façon résumée, sauve des vies, hein, face aux tornades, aux autres épisodes climatiques extrêmes, et que cela coûte moins cher d'assurer la prévision que de payer les dégâts après coup. Ce dénigrement, oui, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ?
Oui, hein, de 8 à 10 fois moins cher.
Ah oui, quand même.
Oui, s'agissant de la prévention des dommages climatiques.
Raquel Bertoldo, sur ce sujet, de votre côté ?
Alors, en fait, ce que j'ai pu retenir de cette deuxième, de la deuxième retour de Trump, c'est que déjà, ça a été bien plus rapide, mais il y avait déjà une certaine conscience et en début, déjà, d'une grande décomplexification et une attente déjà sociale autour de ces enjeux-là. Donc on peut voir que socialement, entre des personnes qui pensent pareil ou qui adhèrent à ces valeurs, ce type d'opinion a commencé à être beaucoup plus véhiculé. On s'attendait déjà à des personnes qui pensent pareil. Donc on pouvait bien plus facilement aller directement vers ce type de valeurs.
Et alors, ce dénigrement outre-Atlantique de la science, est-ce qu'il est un danger important, on va dire, pour nous, Européens notamment ? Est-ce qu'il peut venir alimenter un climato-scepticisme ou toute autre forme de doute qui existe chez nous ? Raquel Bertoldo.
C'est clair, hein. Ben oui, c'est clair, hein. Et donc, c'est ça que les campagnes de sondage que nous avons fait. Donc, mais nous avons fait des études avant le premier, des deuxièmes mandats de Trump aussi. Mais en fait, on voyait déjà un bon niveau de scepticisme. Mais quand on parle de scepticisme aussi, c'est important de différencier les différents types de déni, parce que ces types de déni, ils vont aussi s'adapter en fonction de en fonction aussi de qui nous avons devant nous. Donc on ne va pas non plus exprimer « je ne crois pas au changement climatique » d'une façon courte. Ça, c'est relativement peu rare. Mais par exemple, on va réduire l'importance, ou on va plutôt nuancer, dire « bon, le collègue, là, il savent très bien, on va plutôt dire « bon, je ne fais pas confiance à la totalité des scientifiques », on nuance ces genres de choses, pour faire passer aussi un certain nombre de valeurs et de positions qui sont aujourd'hui ancrées en termes politiques.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ça devient un marqueur aussi politique qui prend de la place à partir de ça.
Jean-Yves Dormagin, peut-être que vous pouvez nous donner un état des lieux, hein, que disent les derniers sondages de cet état du climato-scepticisme en France, et puis bon, on peut aussi partir sur des comparaisons avec l'Europe. Hein.
Or, dans le cadre de Cluster 17, on a fait un sondage très récemment qui portait sur certains des aspects de la perception des enjeux du règlement climatique. Ce qu'on voit en gros, c'est que c'est assez stable sur, en France. Hein, je parle depuis deux ou trois ans, il n'y a pas tellement d'évolution marquée. Et en gros, il y a un quart dans les sondés, il y a un quart des répondants qui sont climato-relativistes et climato-sceptiques. Alors, tout à fait dans le sens qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que il y a peu d'individus qui déclarent qu'il n'y a pas de changement climatique. Moi, j'avais fait une étude en Occitanie, un travail de terrain, avec des questionnaires en face à face, en 2019. Il y a déjà 6 ans, pratiquement. Et c'était intéressant parce qu'on demandait aux individus qu'on interrogeait de nous donner des signes de ce changement climatique. Et alors, il y avait beaucoup de populations qui vivaient à la campagne, dans les mondes ruraux. Et les gens tous donnaient des signes. Tous disaient, les fleurs poussent un mois plus tôt, les fruits sont mûrs un mois plus tôt. Ici, il y avait de la neige régulièrement, il n'y en a plus, etc. Donc, c'est intéressant parce que ce que ça montrait, c'est que, y compris des populations qui peuvent, sous d'autres aspects, être plus relativiste ou plus hostile en tous les cas à des politiques de transition, mais reconnaissait ou même décrivait ce changement climatique en train de se faire. Et je crois que toutes les personnes qui vivent en particulier dans les mondes ruraux, à la campagne, etc., le voient, le mesurent, les agriculteurs, etc. Donc ce n'est pas simplement une théorie abstraite ou des énoncés scientifiques abstraits, c'est une pratique qui est vécue par beaucoup de citoyens, par la quasi-totalité en réalité, et en conséquence, il y a très peu de négation du changement lui-même.
Oui, 2-3%, vous dites.
Oui, là où ça se joue, c'est sur l'origine, évidemment, de ce changement. Et là, on a presque un quart de la population qui considère que ce n'est pas lié aux activités humaines, aux émissions de CO2, etc. Donc, à partir du moment où vous ne reconnaissez pas cette origine, déjà, vous n'avez aucune raison de soutenir des politiques de transformation, de transition. Ça justifie évidemment ce déni de l'origine humaine du changement climatique. Ça justifie évidemment, entre autres, de ne rien faire. Et c'est l'une des figures que l'on observe. Ce qui était très juste aussi dans le propos précédent, c'était de souligner qu'il y a différentes rhétoriques, différentes manières, c'est de nier, mais il y a aussi relativiser, il y a aussi se rassurer, etc., etc. Enfin, c'est-à-dire que il faut pas s'imaginer quelque chose de forcément très structuré idéologiquement et nécessairement très frontal en termes de posture et de propos tenus. C'est plus complexe que ça. C'est dire on en fait trop. Et on a fait une étude récemment. On a un quart des personnes qui ont participé à cette étude sur un échantillon représentatif qui déclarent que les médias parlent trop de ce changement climatique. C'est une autre manière, vous voyez, de relativiser et d'une certaine manière...
De montrer un ras-le-bol aussi.
Oui, et aussi de dire voilà, que ça suffit. On a assez d'entendre parler de changement climatique.
Et alors, en dehors des 25%, les autres, quels sont les profils? Il y a un ventre mou
En fait, ce qui est le plus important, peut-être, c'est de dire que les positions sur ces questions, et en particulier les positions sur les enjeux écologiques, les enjeux liés au dérèglement climatique, que ces positions sont elles-mêmes très associées à d'autres positions. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de vue autonome, aléatoire, c'est très lié à des positions globalement conservatrices. C'est-à-dire ce que l'on voit dans tous les sondages que l'on réalise, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne en particulier, où ces sujets sont aussi très clivants et très polarisants, et aussi en Italie, en Espagne, dans des pays du Sud où ces questions écologiques, les enjeux climatiques sont un peu moins saillants, un peu moins présents dans le débat public et structurent un peu moins les clivages et les oppositions politiques. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les positions sur l'écologie vont de pair avec les positions sur d'autres enjeux sociétaux. Et en gros, pour le dire simplement, le progressisme va de pair avec des positions écologiques, le conservatisme va de pair avec des positions climato-relativistes et climato-sceptiques.
Donc des profils marqués politiquement, c'est ce que vous dites.
Et c'est très corrélé, c'est-à-dire que plus vous êtes progressiste, plus vous êtes favorable à des politiques écologiques, plus vous êtes conservateur, plus vous êtes climato-sceptique ou climato-relativiste. Et ça a des conséquences politiques fondamentales. C'est cela qui explique qu'aujourd'hui, les forces de droite conservatrices, en particulier les plus radicales d'entre elles, adoptent de plus en plus des positions ouvertement et clairement climato-sceptiques et hostiles aux politiques écologiques. Donc c'est le cas évidemment aux États-Unis, qui est probablement le laboratoire de ces processus et de ces phénomènes. Mais vous avez la même chose en Allemagne aujourd'hui. L'AfD est un parti climato-sceptique et hostile aux politiques de transition. Et d'ailleurs, fait l'articulation entre les sujets sociétaux et par exemple les questions migratoires et l'écologie. Il y a une affiche de l'AfD qui est emblématique de ça. C'est une affiche, c'est une campagne de l'AfD, le diesel c'est super. Donc, jeu de mots évidemment, dont on pensera ce qu'on veut, mais le diesel c'est super a été une campagne, c'est une campagne d'affiche en Allemagne de l'AfD, une campagne d'opinion de l'AfD, et une de ces affiches dit aucun SUV, donc le diesel c'est super, aucun SUV n'est illégal. Et c'est un détournement d'un slogan progressiste. Aucun être humain n'est illégal. Donc d'organisations ou de courants de pensée qui viennent en soutien aux migrants et aux populations en demande d'asile, etc. Et donc aucun SUV, vous voyez ce que ça condense en termes de message, c'est-à-dire que aucun SUV n'est illégal, ça fait le lien entre des positions anti-écologiques, des positions anti-migratoires, au passage une certaine ironie dont on pensera ce qu'on voudra sur justement cet humanisme, etc.
Et tout cela s'insinue dans l'opinion publique.
Et ça fonctionne, pourquoi ? Parce que, effectivement, ce sont les mêmes populations qui sont hostiles aux migrants et hostiles aux politiques écologiques.
Raquel Bertoldo, peut-être votre point de vue, en sachant que vous avez aussi travaillé sur ces nuances au niveau européen, justement.
Ah oui, tout à fait, hier. Donc, j'étais en train de penser à une étude qui a été faite en Europe de l'Est, mais ça date, c'est un peu plus ancien que cette dernière polarisation qu'on observe autour du climato-scepticisme. C'est une étude qui date des années 2010, et en fait, ce qui a été comparé, c'était l'amalgame des opinions entre la gauche et la droite dans des systèmes d'Europe de l'Est qui sont en plus dans un mouvement soviétique. Est-ce que cette polarisation autour du climat et de l'état de l'environnement, est-ce qu'il peut être raccroché à un clivage gauche-droite ou pas? Et en fait, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que là-bas, non, il n'y avait pas une distinction aussi marquée qu'en Europe occidentale et surtout aux États-Unis. Donc au début des années 2010, 2010-11, vers ça, on a commencé à voir que aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, ce courant de conservatisme était beaucoup plus marqué autour et galvanisé autour de la question du climato-scepticisme. En Europe, ça commençait et ça commençait à être de plus en plus marqué au fil des années. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que le collègue parle, c'est exactement
Jean-Yves
ça.
Dormagin,
c'est devenu pas une question qui accrochait à une perception même une compréhension de phénomènes scientifiques derrière, mais plutôt quelque chose d'idéologique. Et donc on a, ici, dans notre étude que nous avons faite, qui était c'était la première et la plus vaste étude dans les années, c'était en 2016-17 que nous avons fait cette étude-là. Et donc nous avons comparé les opinions des Français, Norvégiens, Allemands et les Anglais. Et à cette époque-là, et là juste pour faire aussi le point avec ce que je viens de dire, on avait la crise migratoire en Allemagne.
Oui.
Et on n'avait pas du tout anticipé, mais ce qui s'est venu de ces résultats-là, c'était que l'Allemagne, parmi ces quatre pays, était le plus sceptique. Ce qui a été une surprise, vu les politiques qui étaient implémentées à l'époque. Et c'est ça, c'est comme ça que nous avons interprété ces résultats. C'était une montée aussi dans certains dénis et de positions d'opinion publique qui devenaient de plus en plus marquées, tranchées en Europe.
Et puis il y a des nuances que vous nous proposez les uns les autres, d'ailleurs. C'est vraiment de sentir qu'il y a aussi en psychologie ce qu'on appelle le processus de réactance, c'est-à-dire puisque une autorité me dit de faire ou de penser comme ça, je le pense. Il y a aussi ceux qui sont sceptiques par intérêt, on pourra en parler.
Bah, oui.
Et là, ça pose la question des différences qui se mesurent aussi au poids des lobbies dans les différents pays. Et puis vous relevez aussi, que ce soit vous, Raquel Bertoldo, mais aussi Jean-Yves Dormagin, la sphère complotiste ou anti-vax qui s'est repositionné après la crise du Covid sur le climat. Raquel Bertoldo.
C'était très intéressant. Oui. Donc à ce sujet, j'ai été très intéressée à l'époque par le mouvement, par ce mouvement anti-vax. Et j'ai pris des photos. J'ai pris des photos des manifs et parce que il y avait beaucoup de slogans climato-sceptiques qui émergeaient avec. Donc on pouvait bien sentir que c'était un mouvement de déni scientifique qui allait bien au-delà de la question du vaccin. C'était quelque chose qui questionnait. Mais bon, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui. C'était déjà visible en tout cas.
Vraiment de l'ordre de la réactance. Oui.
Eh oui.
De ce déni. Plus oui. Large.
Jean-François Soussana, le réchauffement climatique et la responsabilité de l'humanité ne sont pas une vue de l'esprit, ils ne sont plus à démontrer aujourd'hui.
Non, malheureusement, ils ne sont plus à démontrer et je crois que l'on ressent tous, et d'ailleurs vous l'avez dit Jean-Yves Dormagin, on ressent tous ce qui est en train de se passer avec ce réchauffement. Donc je vous rappelle que 2024 a été l'année la plus chaude jamais mesurée, dépassant pour la première fois le 1,5 degré. Il est vrai qu'il y avait une petite part liée au réchauffement naturel, aux causes naturelles, qui est d'environ 0,19 degrés. Et ça, c'est dû à El Niño, c'est dû à l'accumulation de chaleur dans le Pacifique. Mais évidemment, la grande majorité de ce réchauffement, c'est bien sûr d'origine humaine. Il n'y a absolument plus aucun doute là-dessus. Et si vous voulez, l'Europe est un continent qui se réchauffe très vite. C'est le continent qui se réchauffe le plus vite.
Avec les pôles, d'ailleurs.
Alors les pôles, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on va vers les pôles, on a un réchauffement plus élevé. Et puis les continents se réchauffent plus rapidement que les océans. Et ce qui fait que nous avons eu en France, au cours des 10 dernières années, toujours par rapport à la période pré-industrielle, un réchauffement de plus 2,2 degrés. Cela s'accompagne d'une croissance donc des risques, une croissance des impacts dans tous les secteurs. Et lorsqu'on se projette vers l'avenir, on voit que on peut avoir des impacts assez dramatiques. Déjà, en 2023, on a eu une surmortalité, donc un nombre de décès excédentaires de 5000 personnes en France, dues aux vagues de chaleur en particulier. Et puis, on a eu en 2022 11 milliards d'euros de dommages qui étaient assurés. Les dommages totaux sont encore bien plus élevés.
Oui.
Et lorsqu'on va vers l'avenir, on peut donner juste quelques exemples. Si vous vous projetez vers la fin du siècle avec un scénario de réchauffement tendanciel qui correspond à la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, on parle de 400 à 500 000 logements qui seraient perdus du fait de la montée du niveau de la mer. Vous voyez l'ampleur de ces dommages. Donc en fait,
on parle d'un réchauffement à 4 degrés à ce moment-là.
C'est ça. Donc quand vous prenez la tendance au niveau mondial, mettons que c'est 3 degrés, avec les politiques qui sont déjà décidées au niveau international. On pourrait néanmoins baisser à 2 degrés si tous les engagements des pays étaient tenus, mais on ne le sait pas. Et vous voyez qu'avec cette tendance à 3 degrés, en France, on est à 4 degrés. Et du coup, on a ces impacts extrêmement importants. Si l'on baisse d'un degré le réchauffement mondial, on divise par 2,5 le nombre de jours de vagues de chaleur auxquelles on sera exposé en France. C'est toute l'importance de ces négociations sur le climat.
Et tout le monde sera impacté. Alors dans ce tableau que nous dressons depuis le début de l'émission, on a parlé un petit peu de ces profils de climato-sceptiques, de la réalité du réchauffement climatique. Il ne faut pas oublier que dans cette réalité, il y a aussi des effets sur la psychologie des populations, comme l'éco-anxiété palpable, notamment chez les jeunes. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 20 octobre 2022.
Je dirais que j'ai ressenti la première fois ce mal-être cet été. Parce qu'en fait, il y a eu des canicules comme il n'y a jamais eu. Et j'ai vraiment senti une oppression très forte et où j'ai vraiment commencé à m'inquiéter et à me poser de sérieuses questions.
J'ai parfois des sortes de coups de panique où je suis vraiment mal et je me dis mais comment on va s'en sortir? Des moments où je peux me retrouver à être totalement en panique, à pleurer, etc. Parce que je ne sais pas comment ça va finir. On détruit en direct ce qui nous permet de vivre. Et donc, dit comme ça, ça paraît exagéré, etc., mais c'est le cas. J'ai beaucoup de mal à savoir ce que je veux faire comme études supérieures, parce que j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je veux faire plus tard, parce que notre avenir à tous, toutes les personnes de notre génération et aux générations d'après, il est incertain. Et donc, c'est très compliqué de se projeter.
D'avoir des enfants, tout bêtement, c'est vraiment quelque chose que je remets en question, alors que c'est un modèle qu'on m'a inculqué depuis que je suis toute petite. Je me dis, dans un contexte, je sais pas, je dirais même hostile, j'aurais pas forcément envie de faire des enfants, quoi.
Je me dis qu'en militant, peut-être qu'on arrivera à faire bouger les choses et en parler autour de soi, faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possibles militent. Peut-être que les gens auront une prise de conscience, que nos dirigeants et dirigeantes auront une prise de conscience et que ça changera.
Le fait de voir qu'on est tout un groupe à avoir ce sentiment, en fait, ça, tout simplement, ça donne une légitimité à ce ressenti, quoi, et se dire qu'en fait, on est pas tout seul, on n'est pas complètement bête ou fou de se sentir comme ça, quoi.
Qui veut réagir à ces propos de cette jeune génération, Jean-Yves Dormagin?
Oui, je veux bien, avec plaisir. Alors c'est sans doute en partie le hasard, mais c'était essentiellement, je crois, des jeunes femmes. Jeunes, il n'y a aucun doute, je crois. Je crois qu'il n'y avait que les femmes. Alors, c'est intéressant parce que, du point de vue de la sociologie, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles aux enjeux climatiques et écologiques. Donc ça, d'une certaine manière, pour ceux à qui ces enjeux tiennent à cœur, c'est quand même plutôt rassurant. C'est-à-dire la génération à venir est, semble-t-il, beaucoup plus demandeuse de politique écologique. Et les jeunes femmes, en particulier, sont plus progressistes que les jeunes hommes. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et donc aussi plus sensibles aux enjeux écologiques, pour les raisons que j'exposais. Et c'est important d'entendre ces témoignages aussi, parce que jusqu'à présent, on a parlé de Trump, du trumpisme, et on a surtout parlé de la partie de la population qui est porteuse d'un point de vue conservateur et anti-écologique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette population est quand même minoritaire. C'est-à-dire que il ne faut pas se laisser tromper par les effets d'annonce ou par
les porte-voix,
la puissance des porte-voix. Quand on regarde objectivement aujourd'hui la situation dans les populations européennes et entre autres en France, il y a une majorité de la population qui considère que la situation est grave. Petite majorité, mais une majorité. Il y a une majorité qui considère qu'il faut agir, très nette pour le coup, même très majoritaire. Et il y a une demande majoritaire, en réalité, d'écologie. Donc il faut faire attention là-dessus. En réalité, c'est même un sujet qui pourrait être problématique pour les conservateurs, parce que leur électorat lui-même est plutôt divisé. C'est-à-dire, autant l'électorat progressiste sur ces sujets-là, et même sa fraction la plus modérée, est assez homogène. Ça veut dire qu'il faut des politiques écologiques. Alors après, on discutera peut-être de la capacité des individus à changer leur comportement et à soutenir ces politiques quand elles les concernent directement. C'est un peu différent. Mais en théorie, en tous les cas, et en principe, si vous avez une majorité assez nette quand même, qui demande. Est consciente du problème, qui demande des changements. Et effectivement, dans les fractions les plus jeunes, chez mes étudiants, je le vois régulièrement, dans les fractions les plus jeunes de la population, il y a effectivement jusqu'à cette éco-anxiété qu'on vient d'entendre. Ah oui. C'est-à-dire, il y a une hypersensibilité à ces enjeux qui sont devenus, pour une partie de la jeunesse, décisifs et déterminants. Et c'est vrai qu'on les entend peut-être un peu moins dans le débat public, et c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis et ce que portent certains partis ultra-conservateurs peut donner l'impression que le backlash écologique est majoritaire. Ce n'est pas le cas. Attention, ce n'est pas le cas.
Jean-François Soussana.
Oui, alors je ne voudrais pas que l'on fasse croire que ce climato-scepticisme se propage simplement, disons, du fait d'opinions conservatrices ou bien un petit peu par hasard. Il y a des intérêts puissants qui sont à l'œuvre. Alors le plus exemplaire, c'est évidemment aux États-Unis, le premier producteur de pétrole, également le premier producteur de gaz naturel aujourd'hui. Eh bien, les États-Unis, il y a des intérêts économiques majeurs qui s'inquiètent en réalité de la baisse des énergies fossiles, qui doit être nécessaire si l'on veut lutter contre le changement climatique. Et puis, il y a des choses très concrètes. Vous avez des publications récentes qui permettent d'attribuer aux majors du secteur pétro-gaz les dommages économiques du changement climatique. Et on parle là de dizaines de milliers de milliards de dollars. Ça n'est pas rien, c'est une publication récente dans Nature. Donc, vous voyez, il y a une inquiétude dans ce secteur qui est assez majeure sur le moment où on pourrait basculer à une mise en cause et à une forme de responsabilité. Donc, je crois que c'est tout cela, ou en tout cas aux États-Unis, c'est un facteur puissant qui explique la politique qui est menée par le président Trump. Lorsque l'on regarde l'Europe, eh bien, il y a également la guerre en Ukraine. Il y avait une étude en 2023, que vous connaissez certainement, je crois, de David Chavalarias, qui est au CNRS, qui avait suivi systématiquement les réseaux sociaux et qui concluait qu'il y avait environ, dans les comptes qui faisaient, qui étaient climato-sceptiques, il y avait à peu près 60% de comptes qui étaient inauthentiques, qui étaient des bots, comme on dit, et que ces comptes avaient relayé largement la propagande russe sur l'invasion de l'Ukraine. Si vous voulez, tout ceci n'est pas complètement indépendant de questions géopolitiques, de questions économiques, et il y a donc des risques de désinformation. La Commission européenne a maintenant une action contre la désinformation climatique et elle explique qu'il est possible, par des campagnes, de limiter ce risque. Et il y a eu des enquêtes en ligne qui montrent que lorsqu'on expose à cette désinformation un public qui est tiré au hasard, eh bien, il est possible, en apportant, disons, une bonne explication, de lutter contre la désinformation. Donc on voit que de plus en plus, la désinformation, cette montée oui. des tensions, cela va jouer sur le climato-scepticisme.
Sachant qu'aux États-Unis, justement, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on a vu que la lutte contre les réseaux sociaux complotistes et anti-réchauffement climatique a pris du plomb dans l'aile, hein, si je peux me permettre, puisque le 8 janvier 2025, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, annonçait qu'il renonçait hein, au partenariat de fact-checking mis en place 9 ans plus tôt et que les contenus seraient modérés par des notes communautaires des internautes. Alors c'est vrai que voilà, d'un côté il y a cette lutte contre les infox on va dire et les désinformations et de l'autre côté un autre vent qui souffle. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur Euronews le 1er février 2024 parce que dans effectivement ce tableau que l'on donne à comprendre hein, depuis le début, il y a aussi des différences entre citadins et ruraux. Et donc cet état d'esprit du monde agricole en Europe a aussi fait l'objet de nombreux reportages relayant un discours anti-pacte vert. Et donc tout cela n'est pas complètement aussi anodin dans le contexte.
Des centaines de tracteurs ont convergé jeudi à Bruxelles pour rejoindre la manifestation des agriculteurs alors que se tient dans le même temps un sommet européen extraordinaire. L'atmosphère était tendue près du Parlement européen où se sont retrouvés les éleveurs et les producteurs pour faire entendre leur voix auprès des dirigeants de l'Union. Jets de bouteilles, feux et des statues vandalisées, la police a répondu au débordement par des canons à eau.
C'est un SOS et qu'ils doivent prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs. Pour nos prix, on ne gagne pas assez, on gagne moins que le salaire minimum. Parfois, il y en a même qui gagnent moins que 1000 euros par mois, donc voilà, c'est pas faisable.
Des rassemblements similaires ont eu lieu dans différents États membres. Si les revendications diffèrent d'un pays à l'autre, le secteur agricole se retrouve sur un point. Il dénonce le pacte vert européen qui alourdit les normes et réduit les rendements, selon les agriculteurs.
En fait, on nous demande de faire l'effort et de payer nous-mêmes. On nous demande de mettre des jachères, on nous demande de faire... plein de choses pour la nature, on n'a pas de problème avec ça, mais il faut le financer, c'est pas nous qui devons payer pour financer le budget vert.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Il y a beaucoup de choses dans ce reportage, à la fois la contestation des paysans du pacte vert, de la PAC, mais aussi de nombreuses contraintes. Ça nous fait forcément penser en France à cette proposition de loi co-initiée par le sénateur de Haute-Loire, Laurent Duplomb, pour lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Beaucoup d'attaques en France aussi. On pense aux attaques contre les agences étatiques comme l'Agence de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité, etc., etc. Jean-François Soussana, je me tourne vers vous parce que vous êtes agronome de formation, docteur en physiologie végétale. Vous avez mené dès les années 80 des travaux sur l'écologie des prairies, les cycles de carbone et de l'azote affectés par l'effet du changement climatique. Vous êtes un spécialiste de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez justement, vous, de ce vent qui souffle ?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler que les agriculteurs sont réellement affectés par le changement climatique.
Et sont impactés de plein fouet.
Ils sont impactés de plein fouet. Vous avez, si vous voulez, des pertes de récolte qui sont importantes, de 20 à 30% pour les cultures d'hiver. Alors là, c'est lorsqu'on a des précipitations intenses, des inondations. Et pareil pour les cultures d'été, quand on a des sécheresses, des canicules. Donc déjà, ce secteur-là, il est chamboulé. Ensuite, vous avez des questions assez fondamentales pour la vigne, pour les arbres fruitiers, parce qu'ils ne sont plus forcément adaptés. Il faudra un jour changer carrément les cultivars, changer les pieds de vigne parce qu'on ne tiendra plus par rapport à la canicule. Donc ce problème de l'adaptation est crucial. Et dans le secteur de l'élevage, il y a des maladies animales qui remontent d'Afrique du Nord, par exemple, avec des insectes vecteurs qui maintenant s'installent en hiver parce qu'il fait plus chaud, qu'ils arrivent à résister au froid. Et c'est le cas de la maladie épizootique hémorragique, la MEH, qui touche les bovins et qui a créé des dommages sérieux pour les éleveurs. Donc aujourd'hui, vous retrouvez retrouver dans une situation paradoxale, c'est que si le revenu des agriculteurs est pénalisé, c'est pas simplement par un ciseau entre les prix et puis les intrants, les coûts des intrants, c'est aussi du fait du changement climatique qui diminue en réalité leurs marges et qui questionne leur modèle. Parce que dans bien des cas, il faudra une adaptation beaucoup plus profonde que ce que l'on a aujourd'hui. Par exemple, une diversification des systèmes pour tenir le choc par rapport à des épisodes qui viennent affecter sévèrement une culture donnée. En diversifiant, vous répartissez les risques. Donc ces changements profonds, ils sont difficiles à comprendre pour des agriculteurs dont certains sont réellement fragilisés économiquement. Il y a beaucoup d'inégalités en agriculture, il faut le rappeler, mais il est indéniable qu'une partie de la profession souffre beaucoup. Vous avez des agriculteurs âgés qui ont des métiers difficiles. La charge de travail, particulièrement en élevage, est très lourde. Et du coup, il est tout à fait compréhensible qu'ils s'interrogent. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'arrive pas à un consensus pour se dire il y a un enjeu clé qui est celui de l'adaptation. Et puis, vous avez aujourd'hui des marchés carbone. L'agriculture peut en bénéficier. On a déjà un label national bas carbone en France. Ce sont des dossiers dont la profession pourrait s'emparer avec beaucoup plus d'efficacité, alors qu'elle s'attaque finalement à des régulations environnementales en espérant à très court terme retrouver des marges de manœuvre.
Et vous avez raison de signaler qu'il y a vraiment des situations différentes. Il y a aussi beaucoup de petits et moyens agriculteurs qui vraiment souffrent. Et faut-il le rappeler, c'est le premier secteur professionnel dans lequel il y a le plus de taux de suicide. Hein. Donc rappelons aussi qu'il y a besoin aussi d'être aidé pour pouvoir s'adapter. Jean-Yves Dommagin, vous vouliez réagir?
Oui, tout à fait. Alors il y a des agricultures, ça a été dit, il y a des situations extrêmement différentes.
Totalement.
Et il y a des agriculteurs qui gagnent bien leur vie, il y en a beaucoup. Et il y en a qui vivent très mal, très, très difficilement. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on a entendu et dans cette situation, c'est tous les imaginaires qu'elle véhicule et pour le coup son impact aussi sur tous ceux qui la suivent, parce qu'il y a les agriculteurs eux-mêmes qui sont aujourd'hui très peu, c'est une toute petite population hein, les agriculteurs actifs, c'est dans la société française, mais il y a la société elle-même qui suit ces conflits et qui les décrypte. Et vous voyez bien que c'est un conflit qui met en scène en gros donc des populations qui sont perçues comme ayant des métiers très durs, des populations qui vivent sur la terre, de la terre, des populations rurales, enracinées.
Et ceux qui prennent leur retraite ont bien du mal à trouver des repreneurs, d'ailleurs.
Ont du mal à trouver des repreneurs. Enfin, on est vraiment, là, pour le coup, dans la France qui se lève tôt, vous voyez, la France de la terre, la France, etc. France populaire, pour une partie d'entre eux, en tous les cas. Et puis, il y a cette idée qui se dessine d'une technocratie déconnectée à Bruxelles. Des gens en costume, bien habillés, dans des bureaux, qui prennent des décisions, qui imposent des normes.
L'écologie punitive. Et
donc une écologie punitive, aux limites de l'absurde, du kafkaïen.
Stigmatisante aussi.
Stigmatisante, et qui conduit à... Qui explique la désolation, en gros, d'une partie des campagnes. C'est ça, in fine, la fin du raisonnement. Et c'est assez terrible. Parce que, effectivement, ce type de représentation est repris par certains médias, et entretenu et véhiculé aussi par certains médias. Et donc, ce type de représentation participe de cette construction, et entre autres, de cette opposition entre les mondes ruraux d'un côté et, en gros, les bobos urbains déconnectés, les technocrates bruxellois, en gros, qui sont de l'autre côté. Et ça nourrit l'imaginaire du clivage dont on parle ce soir. C'est ça. Et c'est très important. Et donc, au-delà même des enjeux pour l'agriculture qui sont très importants. Se dessine une représentation plus globale qui, elle, a des conséquences bien au-delà des agriculteurs et conforte une partie de la population dans cette idée que, effectivement, les normes sont absurdes, que il y a une dictature écologique. Nous, on avait testé dans un sondage cette notion de dictature écologique. 70% des sondés adhéraient à cette notion. Alors, il faut la comprendre, il ne faut pas la prendre au premier degré. On ne vit pas en Corée du Nord, et les gens le savent. Mais c'est cette idée qu'on nous impose sans arrêt des mesures, des restrictions, des normes.
Et comme vous dites, c'est cette idée, cette pensée.
Qui ne sont pas le produit d'une délibération, ni même d'un vote. Mettez-vous à la place d'un citoyen qui, au journal télé de 13 heures, qui vit à la campagne, effectivement, qui apprend qu'il ne pourra plus acheter de voiture à moteur thermique. Effectivement, il a l'impression que ça n'a jamais été débattu dans l'espace public. Il a l'impression que c'est une décision qui vient d'en haut. Il se demande pourquoi. qui a pris cette décision, dans quel but, etc. Et ça, ça nourrit.
Parce qu'il n'y a pas l'accompagnement, et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, c'est l'accompagnement aussi, et financier, et social, pour essayer de donner à comprendre qu'il y a cette adaptation qui sera de toute façon indispensable si on veut éviter qu'il y ait plus de conséquences lourdes. Raquel Bertoldo, je me tourne vers vous rapidement et puis on entendra aussi à ce stade de l'émission, le temps passe très vite, votre choix musical. Vous vouliez peut-être réagir sur cette question-là.
Bah oui, en fait, ce qui vient d'être dit par rapport à la question du choix de comportement aussi, de monde mental des ruraux et de personnes qui vivent en ville. C'est vrai que si on se met à la place aussi des gens dans leur quotidien, nous sommes tellement submergés de tellement de contraintes, et ça c'est partout, mais c'est vrai que la question écologique, elle va passer bien loin dans beaucoup de choses. Donc en fait, il y a la question de priorité. Et une autre chose aussi, ces injonctions de dictature écologique, comme on peut dire, elles viennent déconnecter aussi de quelque chose qui vient ou qui pouvait être posé d'une façon positive. Vous voyez?
Oui.
Donc, en fait, si on parle aussi d'un retour à l'écologie ou certaines choses, certains choix qui pouvaient rentrer dans notre vie de tous les jours d'une façon qui est bien vécue, pas comme quelque chose qui est vu comme une perte, comme, OK, ben, je vais pas pouvoir acheter une voiture X, Y, ou je vais pas pouvoir manger d'une certaine façon. Il y a d'autres façons, d'autres modes de vie qui pouvaient substituer. Tu être aussi, en plus, plus épanouissant.
Et on n'en parle pas. Ou pas suffisamment,
bah oui,
en tout cas. Pour donner l'envie d'après.
Positive. Ouais. Bah oui. Et quand on parle aujourd'hui de nature en ville ou de l'adaptation au changement climatique d'une autre façon et de narrative qui pouvait venir à la place, ça.
Les nouveaux
ça
imaginaires.
Pouvait être bien plus motivateur pour les individus. Mmh. Et vécu d'une autre façon, en fait. Et ça, ça nourrit aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la question de l'anxiété, des troubles anxieux qui viennent. Oui. Oui, parce qu'on est face à quelque chose qui est impossible à résoudre. Nous avons ces problèmes qui sont gigantesques, mais les individus, ils ne peuvent rien aussi à leur échelle tout seuls. Ils sont complètement fragmentés dans leur pouvoir d'agir.
Alors, Raquel Bertoldo, pour nous faire du bien, vous allez nous faire écouter une chanson qui vous tient à cœur. Il s'agit de...
Voilà. De Élise Régine, Águas de Março.
Et alors, il y a une raison particulière? Elle parle de saisonnalité, hein, c'est ça?
Voilà, bah, c'est une chanson que je trouve qui apaise. Elle apaise parce qu'elle nous fait penser que les choses changent, les saisons s'enchaînent. Et nous avons toujours ces cycles de la vie qui nous rappellent que les choses vont revenir à l'ordre.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candeia,
é o mate da pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um breu,
é uma ponta,
é um ponto.
É um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz,
da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração.
Águas de março de Elis Regina e Tom Robin. Et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et avec nos trois invités, nous nous intéressons au climato-scepticisme, déni de la science, trumpisme, quelle mécanique à l'œuvre et comment peut-on faire front? Nous allons en parler justement de la façon de faire front tout de suite dans un instant avec Jean-François Soussana, directeur de recherche, co-auteur de rapport du GIEC et président du Haut Conseil pour le Climat. Jean-Yves Dormagin, politologue et professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, président du laboratoire d'études d'opinion Cluster 17 et Raquel Bertoldo, chercheuse en psychologie sociale spécialisée dans le domaine de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique et maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Et face à cet effet, un contagion, alors comment faire front? Eh bien, le mouvement Stand Up for Science a montré une forte adhésion dans de nombreux pays.
La manifestation a commencé en début d'après-midi. C'est une mobilisation montée en quelques jours, mais ça a fonctionné. Des dizaines de personnes battent le pavé, des plus célèbres comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte, aux anonymes, des simples citoyens et bien évidemment un gros contingent de chercheurs, de scientifiques et d'étudiants dans tous les domaines. On a vu des délégations de l'Institut Pasteur, de l'École Normale Supérieure. Tous veulent résister à ce qu'ils appellent l'offensive obscurantiste aux États-Unis. Alors pourquoi et comment, écoutez-les.
Pourquoi ne pas avoir une initiative européenne, par exemple, pour les accueillir? Nous partageons avec nos collègues américains cet héritage des Lumières.
Il faut les embaucher. Et c'est peut-être une opportunité pour notre pays, d'ailleurs. Parce qu'il y a très certainement des avancées technologiques majeures à faire sur le climat, sur l'environnement. Il y a certainement des découvertes à faire et c'est peut-être une chance pour notre pays d'embaucher ces gens pour investir dans ces technologies du futur.
Eux, ils ont exprimé leur désarroi en privé, à moi entre autres, mais ils ne disent pas grand-chose en public parce qu'ils ont peur des représailles. Donc, je peux être un relais en donnant des exemples des difficultés qu'ils rencontrent depuis le 20 janvier.
On connaît le programme PAUSE du ministère des Affaires étrangères qui accueille depuis 2017 des scientifiques en exil. Ce programme va être ouvert à des scientifiques américains, ce qu'on n'aurait jamais imaginé devoir accueillir des scientifiques américains comme des exilés ou des réfugiés.
Alors c'était un reportage diffusé sur LCP le 7 mars 2025. Parvenir à surmonter ces défis, c'est aussi travailler avec les scientifiques du monde entier. Jean-François Soussana, je précise d'ailleurs dans ce cadre que vous avez également été l'un des 15 experts qui composent depuis 2022 le Conseil scientifique consultatif européen, l'équivalent en quelque sorte du Haut Conseil pour le climat au niveau de l'Union européenne, et que travailler aussi avec d'autres institutions à l'international, vous l'avez vécu au sein de l'INRAE.
Oui, merci.
Si je ne m'abuse.
Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que la science est fondamentalement internationale. Et puis, dans le domaine du changement climatique, on l'a déjà dit, tout repose sur des observations qui doivent être réparties dans le monde, qui font intervenir des satellites, qui font intervenir des capteurs au sol, qui impliquent des chronologies de données très longues, sur des dizaines d'années. La plus célèbre étant celle de Mauna Loa, justement, qui est à Hawaï, où vous avez l'augmentation progressive du CO2 qui est mesurée, qui a atteint pour la première fois 420 parties par million cette année. Et donc, ces données, elles sont irremplaçables. Donc l'enjeu, c'est la sauvegarde de ces données. Et il y a d'ailleurs des bases de données américaines qui ont des données françaises. Donc on a absolument besoin d'aider les scientifiques américains à sauvegarder, à créer des miroirs. C'est en fait notre capital scientifique qui est mis en cause de ce point de vue. Après, bien sûr, il y a des actions qu'on peut avoir, comme l'action qui a été lancée par la présidente de la Commission, le président de la République, Choose Europe, donc pour la science. Mais les moyens financiers consacrés sont tout de même pas suffisants pour faire absolument la différence.
Ah, c'est ça.
Ce qui est important, c'est que l'on ait des voix qui s'expriment, celles des scientifiques américains, même s'ils sont en Europe, et qu'ils continuent à exprimer leur attachement à la science du climat.
Jean-Yves Dormagin, comment se mettre, selon vous, à l'abri de telles décisions, situations obscurantistes vis-à-vis de la science, mais aussi d'une manière générale, c'est-à-dire pallier les politiques anti-climat, anti-environnement, qu'elles viennent des États-Unis ou d'ailleurs? Si on avait la solution, ce serait formidable.
Si j'avais la solution, ce serait... Oui, non, j'ai, vous vous en doutez, pas la solution.
Oui.
Je vais vous répondre par une évidence. en créant un rapport de force qui ne permet pas à des forces anti-sciences et obscurantistes de prendre le pouvoir. C'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est assez sidérant et tout à fait logique en réalité, puisque le climato-scepticisme appelle la censure de la science, par définition. C'est totalement logique, ça va au-delà d'ailleurs du climat. Vous avez des chercheurs aujourd'hui aux États-Unis qui sont persécutés, je crois que le mot n'est pas trop fort, et pas seulement par le haut. C'est le propre de ce qu'est le trumpisme, hein, quelque chose qui rappelle aussi, sous certains aspects, il y a beaucoup de différences, mais sous certains aspects, j'ai vu ma thèse sur le fascisme italien, donc parfois ça m'y fait penser, parce qu'il y a cette mobilisation aussi par le bas. Il faut savoir qu'il y a des chercheurs dans certaines universités qui sont dénoncés par les mouvements MAGA locaux, qui font des pétitions contre eux et qui exigent du pouvoir fédéral des sanctions et des menaces contre les universités. Des gens qui travaillent par exemple sur le vivant et sur des espèces non genrées, vous voyez, non sexuées. Et là-bas, par certains, c'est considéré comme de l'idéologie. Enfin, c'est étrange, avec une espèce de retournement assez fascinant. Quand Donald Trump dit que l'écologie, enfin, la science du climat est une religion socialiste, mais bien que les termes même sont, oui, c'est un retournement. Enfin, c'est-à-dire que c'est la science devient une religion. Enfin, c'est et le savoir est présenté par ceux qui le combattent. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai pas évidemment de solution. J'ai une conviction assez profonde, c'est qu'il faut accepter que c'est un rapport de force. C'est-à-dire que ce qui est compliqué parfois pour les savants, pour les chercheurs, pour les scientifiques, c'est il y a ce penchant naturel, logique, qui est de croire que parce que c'est le savoir, parce que c'est la connaissance, parce que c'est démontré par des données empiriques, parce qu'il y a un consensus scientifique.
La science dérange, large, hein, elle va avec un esprit
cela
critique aussi.
Cela va se
aussi
diffuser, vous voyez, en quelque sorte, naturellement. Et il y avait d'ailleurs cette idée, au fond, dans l'écologie, qu'on allait tous devenir écologistes. C'est-à-dire que si on avait décrit il y a quelques années que les choses allaient évoluer dans cette direction, beaucoup auraient été très étonné et très surpris, parce que il y a cette idée que c'est justement du savoir, de la connaissance, que c'est un enjeu universel, que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, et donc cette idée que progressivement, au fur et à mesure, tout le monde allait se rallier à ce projet de lutte contre le changement climatique. C'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est pas ce qui se passera. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça heurte des intérêts, ça conduit à devoir modifier des comportements, et à partir de ce moment-là, ça suscite des réactions, des résistances, voire des oppositions organisées. Elles ont été évoquées tout à l'heure. Et ça ne peut pas ne pas avoir lieu. C'est-à-dire, ça, je pense qu'il faut que tout le monde l'ait à l'esprit. L'écologie est un combat. L'écologie n'opérera pas au consensus. C'est difficile pour les écologistes eux-mêmes, parce que les écologistes viennent souvent de cette culture du consensus, de la participation, etc. Il y a des rapports de force, et ces rapports de force sont, à mon avis, pour des raisons structurelles profondes, assez inévitables. Donc je pense qu'il faut au minimum les assumer.
Raquel Bertoldo, ce rapport de force, on peut peut-être en parler rapidement avec vous, mais pour certains activistes, hein, il s'agit d'entrer en résistance civile, d'agir. Est-ce que c'est une bonne façon aussi de faire front? Comment est-ce que c'est reçu dans l'opinion publique? Je crois que vous êtes intéressé à ces façons d'agir, un petit peu avec des actions coup de poing, hein, d'activistes soucieux du devenir de la planète, mais est-ce que c'est vraiment vers cela que on peut aller pour infléchir le climato-scepticisme?
Il y a tellement de stratégies qu'on pouvait imaginer. Mais c'est vrai que nous avons fait récemment des études autour de la réception qui ont ces campagnes de messages qu'on peut organiser, qui sont plus, qui questionnent plus le système profondément ou juste à la surface ou qui font un peu plus de consensus. Et ce que nous voyons systématiquement, c'est qu'en fait, c'est clair que le plus ces messages sont appellent à une refonte profonde du système, donc qui mettent en question aussi les intérêts des uns et des autres, ce qui a été dit sur les questions aussi des intérêts.
Et oui, il y a un business plus, hein, du climato-scepticisme, hein, faut le dire, quand on voit des multinationales effacer leur engagement climatique sur leur site ou d'autres entreprises, etc., avec l'arrivée de Trump au pouvoir.
Oui, c'est ça.
Faut dire qu'il y a ce business-là derrière aussi, quand même.
Et c'est vrai que ces types de positions qui sont structurées aussi pour s'aimer les doutes. Et s'aimer les doutes passe aussi par une décrédibilisation de la science et par ces ambivalences qui finissent par nuire le message qu'on aurait fait passer, qui questionne aussi notre façon de vivre qui mettent en question. Mais tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité des énergies fossiles, autour des énergies fossiles. Je pense que ça, c'est le type de choses qui est fondamental.
Mais oui, Jean-François Soussana, on comprend, hein, on est quand même dans un état d'urgence qui nécessite des politiques publiques aussi plus ambitieuses. Là, c'est quand même cet engagement et ce rapport de force, hein, peut-être aussi qu'il faut mener, mais au niveau politique, la responsabilité des politiques au pouvoir. Vous êtes en première ligne, hein, avec le Haut Conseil pour le Climat.
Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que paradoxalement, il peut y avoir une forme d'opportunité pour l'Europe. Aujourd'hui, pour la première fois, la Chine, sur les 12 derniers mois, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre grâce à des progrès tout de même majeurs en termes de technologies vertes. L'Europe est confrontée à des enjeux de transition climatique qui sont très importants également pour sortir d'une dépendance aux énergies fossiles qui coûte très cher en importation, qui coûte très cher en niche fiscale et qui finalement revient dans un contexte géopolitique tendu à dépendre soit du gaz russe et on essaie d'en sortir, soit du gaz américain, du pétrole américain. On importe aujourd'hui en France d'abord des États-Unis pour ces deux produits. Et à partir de là, évidemment, quand on voit la politique du président Trump, on se rend bien compte que cette forme de dépendance, qui crée d'ailleurs des coûts de l'énergie beaucoup plus élevés, c'est absolument toxique. Donc il faut en sortir. C'est un enjeu donc de souveraineté, c'est un enjeu de compétitivité économique. Les prix de l'électricité sont liés au prix du gaz, donc quand le gaz est cher, et ben tout monte. Donc les ménages souffrent beaucoup, les entreprises souffrent également, ça peut créer de la désindustrialisation. Donc l'action climatique, c'est avant tout sortir d'une dépendance, renforcer la souveraineté, renforcer la sécurité.
Donc sans donner les moyens.
Et sans donner les moyens.
Et financiers.
Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des investissements qu'il faut faire pour cette transition, c'est vrai. Et puis, il faut faire surtout très attention à l'angle social. Une des causes qui fait que ces thèses climato-sceptiques se répandent, particulièrement dans le monde rural, c'est parce que, bien souvent, il n'y a pas d'option pour les gens qui ont des revenus modestes, qui sont isolés. Si vous avez une voiture et que vous devez rouler pour votre travail, etc., vous avez une passoire thermique comme logement, comment vous faites? Il y a des aides, elles sont sans doute pas suffisantes aujourd'hui. Il y a des politiques, mais elles sont encore pas suffisamment... Enfin, il y a beaucoup de politiques qui sont régressives en réalité, donc qui défavorisent des ménages qui sont déjà en difficulté. Donc, le problème, c'est ce temps où on doit investir et où on doit trouver l'adhésion de tous par des politiques qui respectent les moyens de chacun pour contribuer à l'effort du changement climatique.
Alors, le Haut Conseil pour le climat. Eh oui, le Haut Conseil pour le climat a donné des axes, hein, d'action, investir 60 à 70 milliards d'euros par an d'ici 2030, financer donc pour les financements publics et privés, arrêter les subventions aux énergies fossiles, adopter surtout des textes climatiques stratégiques. Le plan national d'adaptation au changement climatique a été jugé insuffisant. Allez, juste en 10 secondes, il faudrait lui donner une valeur juridique, hein, je crois. C'est ce qui est la demande du Haut Conseil pour le climat.
Oui, alors ce plan, effectivement, à court terme, il faudrait le renforcer. Donc ça passe par la question de la valeur juridique, notamment pour la trajectoire de référence à l'adaptation.
Oui.
Ça passe par les moyens financiers. Et puis, ça passe finalement par des mesures qui soient chacune bien précises et qui puissent favoriser des ménages qui sont modestes et qui sont en difficulté.
Et l'inscrire donc dans le Code de l'environnement, pourquoi pas ?
Oui, ça reste à faire.
Et voilà, merci à tous les trois. Merci Jean-François Soussana, Raquel Bertoldo, Jean-Yves Dormagin. La bibliographie, les informations sur le sujet vous concernant, bien sûr, sont à retrouver sur notre site, franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.